Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Art District. Je suis extrêmement heureux d'ouvrir une nouvelle bulle d'histoire, une bulle d'histoire inhabituelle, puisque d'habitude j'ai un seul invité. Là, cette fois-ci, j'en ai deux auteurs de bande dessinée. Je suis avec Clément Xavier et Lisa Lugrin, qui viennent de sortir un album absolument génial dans le dessin, dans la narration et dans son thème. Ça s'appelle Jujitsu Fragette, c'est le second volume d'une collection qui s'appelle Coup de tête, c'est publié par les éditions Delcourt, c'est aussi dirigé par le grand scénariste Chris, voilà, c'est un ami, donc je peux dire qu'il est très grand scénariste. Clément et Lisa, vous êtes les deux auteurs de l'album, il faut rajouter Albertine Ralenti, qui est la coloriste, et on a invité des coloristes déjà dans cette émission, et donc on sait à quel point c'est des gens importants pour la réussite et la qualité des albums. Avant de parler de Jujitsu Fragette, et donc de ce titre mystérieux, est-ce que vous pouvez vous présenter, voilà, nous dire qui vous êtes ?
Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Clément Xavier, et je suis donc le scénariste de Jujitsu Fragette.
Et moi, Lisa Lugrin, donc dessinatrice de Jujitsu
Fragette. Ouais, parce que vous avez fait d'autres albums, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, parce que quand on voit votre œuvre, voilà, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il y a un fil, est-ce qu'il y a une suite entre chaque album, est-ce qu'il y a une idée qui se détache de votre travail ? Enfin, moi, j'ai l'impression.
Oui, alors en fait, notre première bande dessinée qu'on a réalisée ensemble s'appelait Yekini, le roi des arènes, et ça racontait l'histoire d'un lutteur sénégalais. Donc il y avait déjà en fait la présence du sport à travers la lutte sénégalaise, qui est assez incroyable, et puis plein de questions en fait sur la société, et la société sénégalaise, mais pas seulement en fait, sur le sport business aussi. Donc voilà, après on a fait ensemble Geronimo, Mémoire d'un résistant apache aux éditions Delcourt. Voilà, Jujitsu Fragette, c'est le troisième album, donc il y a souvent en fait un rapport à l'histoire.
Ouais.
Et un peu à l'actualité, parce que même Geronimo, il y a toujours quelque chose en résonance avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, même si c'est des histoires anciennes ou qui se passent carrément ailleurs.
Oui, exactement. C'est vrai que pour nous, c'est très important de faire le lien avec aujourd'hui, avec des choses qu'on vit, parce qu'en fait, c'est vrai que l'histoire, ça travaille le présent et ça questionne le présent. Et en fait, c'est vraiment primordial d'avoir ça en tête. Les Jujitsu Fragette, par exemple, c'est une histoire très peu connue et qui est aujourd'hui, ça vaut le coup de la remettre en scène, quoi.
Jujitsu Fragette, donc c'est un album qui est dans une collection qui s'appelle Coup de tête. Pour faire court, hein, ça va être une collection autour de l'histoire du sport, mais quand on connaît Chris, ça va être l'histoire du sport avec une résonance politique, toujours. Comment vous êtes arrivé, vous, dans cette collection ?
Donc en fait, on était à un festival avec Chris, et il nous a parlé de cette collection, donc on a trouvé que l'idée était super, et il nous disait qu'il avait beaucoup de projets, mais qu'il lui manquait des projets sur des femmes, en fait. C'est vrai qu'en sport, pour l'instant, les femmes sont quand même moins connues, moins mises en avant. Et nous, on venait de lire plusieurs articles, un article du Monde Diplomatique, et surtout d'écouter une interview d'Elsa Dorlin, qui parlait de ces suffragettes qui s'étaient formées au Jujitsu. Et on avait trouvé ça génial, mais on ne pensait pas spécialement en faire un livre. Mais là, du coup, on en a discuté avec Chris et l'idée est partie comme ça.
Pour faire court, comment vous êtes rentré dans l'histoire ? Comment vous avez découvert ? Est-ce qu'il y a beaucoup de sources ? Est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur les Jujitsu Fragette ?
C'est en grande partie grâce au livre d'Elsa Dorlin. Ensuite, on s'est renseigné, mais c'est vrai que je pense que c'est en grande partie elle qui a défriché vraiment ce sujet. Il y a aussi un petit recueil qu'a écrit la prof de Jujitsu, donc c'est notre héroïne Edith Garude, qui a écrit un petit recueil. Et puis après, c'est l'histoire des suffragettes qui est beaucoup plus connue, par contre. Donc ça on n'a pas eu de difficulté sur les suffragettes elles-mêmes.
Alors, le titre est un peu mystérieux, difficile à dire. En même temps, il est drôle. Comme est aussi drôle cet album, même si ça traite quelquefois de, d'épisodes très très dramatiques. C'est quand même un album qui est assez joyeux, j'ai trouvé assez optimiste, plein d'énergie. C'est l'histoire d'un couple assez étonnant. On est en 1910, on est avec Edith et William Garud. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le début de l'histoire et qui sont ces deux personnages qui sont vraiment étonnants?
Alors oui, en effet, Edith et William forment un couple. Ils vivent ensemble et ils ont la même passion, c'est le jujitsu. Donc ils ont appris le jujitsu grâce à un professeur japonais qui était venu à Londres pour l'enseigner. Et ils ont suivi ses cours et quand ce professeur japonais est retourné dans son pays, il a proposé à ses deux plus fidèles étudiants de reprendre son dojo. Donc c'est comme ça qu'Edith et William se retrouvent professeurs ensemble. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a plein de sports qui sont interdits en fait aux femmes. On pense à la boxe anglaise, par exemple. Aucune femme n'a le droit de le pratiquer, bien sûr. C'est un sport beaucoup trop noble pour elle. Mais le jujitsu est totalement méconnu des autorités. Et puis, comme ça vient de l'Asie, on ne sait pas trop, on se dit que c'est un petit peu pour les faibles, quoi. Enfin, pour les dominés. Donc, les femmes ont le droit. En fait, les autorités, à cette époque, pensent que c'est une sorte de gymnastique. Et il se trompe, bien sûr, et c'est un art martial qui est redoutable, au contraire, parce qu'en fait, il s'agit, pour des gens qui ne sont pas forcément physiquement très impressionnants, de retourner la force d'un adversaire contre lui-même. Et donc d'utiliser l'agressivité, en fait, de quelqu'un qui essaye de vous dominer contre lui-même. Donc, bien sûr, c'est un sport qui est éminemment politique aussi, et les femmes vont avoir le droit de le pratiquer, et Edith et William vont avoir le privilège, en fait, d'animer une école qui est mixte. Donc là, il y a beaucoup de gens d'horizons différents qui se rencontrent, qui se croisent et qui partagent cette passion, en fait.
Oui, c'est même un sport qui est totalement à l'inverse des sports pratiqués en Europe, puisque normalement, c'est entre guillemets la loi du plus fort. Là, c'est plutôt la loi du plus faible, en fait.
Tout à fait. En fait, Edith, donc, c'est une des premières profs d'arts martiaux en Europe femmes. C'était vraiment tout nouveau. Et elle faisait 1m50. Donc ça donne une idée. Par contre, elle était redoutable. On a des photos, on a retrouvé des photos dans des journaux d'elle où elle fait des démonstrations et elle fait vraiment tomber des colosses d'1m80. Voilà.
Alors, vous racontez ça sous un angle un peu humoristique. Comment se fait la rencontre entre les suffragettes et Edith? Sachant que, d'après ce que j'ai compris, Edith, elle n'est pas forcément très au courant ni très impliquée dans le mouvement des suffragettes. Comment toutes ces femmes vont-elles se rencontrer?
Bien, en fait, c'est par l'intermédiaire, alors là c'est une partie un peu fictionnelle, c'est par l'intermédiaire d'une suffragette qu'on a appelée Marge dans notre histoire, qui va en fait un petit peu par hasard suivre ce cours de jujitsu, étant donné qu'il est ouvert, qu'il est permis aux femmes. Au début, elle s'attend vraiment à ce que ce soit un petit peu bidon, quoi, que ce soit encore un énième cours de gymnastique suédoise. Et déjà, sa surprise, c'est de découvrir qu'en effet, il y a bien une femme qui enseigne cet art martial. Et après, elle va inviter Edith Garud à venir se produire. En fait, Edith Garud et William, ils faisaient énormément de démonstrations à cette époque parce que le jujitsu était très méconnu quand même et eux, ils essayaient de recruter des nouveaux disciples. Donc, ils se produisaient dans des tas de circonstances différentes et voilà, c'était un peu un d'objet promotionnel, quoi. Et donc, Marge invite Edith à venir faire une démonstration devant les membres du WSPU, un courant très radical de suffragettes.
Votre bande dessinée a évidemment des résonances avec l'actualité et il y a aussi des épisodes où Edith va découvrir, entre guillemets, parce qu'elle a une relation amoureuse très privilégiée avec son mari, qui est un homme, j'allais dire, doux, aimant, attentionné, et elle va découvrir les femmes battues, des femmes qui sont marquées, et elle va aussi leur apprendre le jujitsu pour se défendre contre leur mari. Ça, évidemment, on pense à toutes les affaires de femmes battues et de femmes assassinées.
Mmh. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, il y a un écho impressionnant par rapport à aujourd'hui, parce que ça se passait il y a 100 ans et on se rend compte que, bon, d'accord, on a eu le droit de vote, et heureusement, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et au niveau des violences faites aux femmes, c'est clair que c'est impressionnant. Et en effet, les femmes, là, c'est en train de se développer à des cours d'autodéfense féminine pour réagir dans la rue, mais aussi pour réagir avec nos proches, parce qu'en fait, la plupart des agressions, en fait, la majorité se passe avec des proches contre les femmes. Et c'est extrêmement important. À un moment dans la bande dessinée, on cite Elsa Dorlin, c'est Edith Garut, donc la prof de jujitsu, qui donne un enseignement à ses élèves et qui leur dit « on va pas apprendre à se battre, on va désapprendre à ne pas se battre ».
Oui, la phrase est vraiment très forte. Je sais pas si c'est une vraie phrase historique, mais la phrase est belle et intéressante, quoi.
Oui, alors on a emprunté la phrase justement à Elsa Dorlin, qui a écrit le livre « Se défendre » et qui nous a fait l'amitié et l'honneur de signer une préface pour cet ouvrage. « Se défendre », c'est vraiment un bouquin essentiel sur l'autodéfense.
Oui, Elsa Dorlin, vous pouvez la présenter en quelques mots, parce qu'elle signe aussi la postface de l'album, qui est une sorte de bande dessinée en appendice de Jujitsu Fragette. Vous pouvez nous dire qui c'est en quelques mots? On va continuer après sur l'album.
Oui, c'est une philosophe qui travaille donc sur plusieurs thématiques et qui a notamment écrit ce livre « Se défendre », qui présente plusieurs justement mouvances dans l'histoire de gens qui se sont réunis ou qui seuls en fait ont cherché à se défendre. Et en fait, elle parle aussi bien des suffragettes que de groupuscules gays à New York, enfin du Krav Maga, de tas de mouvances différentes où à un moment les gens dominés et opprimés ont essayé de prendre le dessus et en tout cas ne pas se laisser oppresser, quoi.
Et dans la postface, justement, par rapport à cette bande dessinée dont vous parliez, Lisa en fait a assisté, c'était en mars. Elle a assisté en fait à un cours que donnait Elsa Dorlin à Marseille, tout près de chez nous, sur l'autodéfense. Et donc elle a rencontré à la fois Elsa Dorlin, elle lui a parlé de l'album à cette occasion, et puis plein de jeunes féministes en fait qui préparaient une manifestation le lendemain et qui se posaient la question un petit peu de savoir comment les autorités allaient ou pas réprimer cette manifestation, parce qu'il y a pas mal de violences policières actuellement.
Donc vous faites vraiment la jointure avec ce que je voulais évoquer après. C'est donc, il y a une nécessité d'apprendre le jujitsu, donc pour les femmes qui sont battues, mais évidemment pas seulement. Il y a une dimension, j'allais dire, de haute politique, puisque les manifestations de suffragettes sont réprimées par le pouvoir anglais, parce que là on est en Angleterre, mais c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose dans beaucoup de pays où les femmes militent pour le droit de vote. Pourquoi faut-il apprendre le jujitsu quand on va manifester, quand on est une suffragette en 1910 ?
Oui, ça paraît un peu fou, mais en effet, elles étaient très violemment réprimées par la police. Et il y avait aussi énormément d'hommes qui venaient assister au cortège et qui venaient tabasser vraiment les femmes sous des fois le regard un peu complice aussi de la police qui laissait faire. Et donc, il y a eu une manifestation qui après a été surnommée le Black Friday. Et très célèbre, où il y a eu aussi des photographies, donc heureusement, qui ont du coup marqué un peu l'opinion après.
Ils sont dans l'album d'ailleurs.
Oui, a été extrêmement violenté. Il y a même eu des décès pendant les manifestations. C'était rare, mais c'était extrêmement violent.
Et est-ce qu'on sait si ce jujitsu a été utile pendant ces manifestations?
Oui, alors en fait, on sait qu'il a été utile. Donc, Edith Garud, les suffragettes vont lui demander de leur enseigner le jujitsu pour se défendre dans ces manifestations et surtout pour défendre leur leader, qui s'appelle Emmeline Pankhurst, qui, elle, était systématiquement arrêtée par la police avant même qu'elle ait réussi à ouvrir la bouche pour faire le moindre discours. Et donc, les Amazones, Ce groupe de gardes du corps, en fait, devait déjà protéger leur leader, quoi. Ça, c'était aussi une de leurs missions. Donc, on a eu beaucoup de discours très, très, très forts, très puissants d'Emmeline Pankhurst qui ont été possibles grâce au travail des jujitsu suffragettes des Amazones de Londres.
C'était une autre de mes questions. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui est Emmeline Pankhurst? Parce que même si elle est, on le voit, elle est contestée même dans le mouvement des suffragettes, c'est quand même un personnage absolument colossal, quoi.
Oui, elle est formidable. En fait, donc c'est ça, il y a plusieurs mouvements au sein des suffragettes. Il y a un mouvement qui voudrait être beaucoup plus pacifique. Elle a commencé de façon, en effet, plus pacifiste. Et puis, elle s'est rendue compte que ça marchait absolument pas, qu'on les écoutait pas. Et donc, au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, bah, si on m'écoute que si je casse des vitrines, eh ben, je vais casser des vitrines. Elle a dû faire des grèves de la faim pour protester parce qu'elle voulait être reconnue comme prisonnière politique. Et elle a des très très belles formules, par exemple, enfin c'est des formules qu'on a mises dans notre bande dessinée, mais quand elle dit que leur mission, c'est la mission la plus importante, c'est de libérer la moitié de l'humanité, ou quand elle dit aussi, vous nous reprochez d'être trop violents, mais en fait on est trop violente uniquement contre la propriété privée et pas contre les hommes et les humains, et pour vous la propriété privée c'est la chose la plus importante, et donc on s'attaque à ça. Et elle dit, par contre, la violence, les hommes ne se privent pas de l'utiliser dans leur guerre et de tuer des millions de personnes.
Oui, en même temps, c'est une femme qui a une vraie vision politique, parce qu'elle a vite compris que, grâce à la guerre de 14, entre guillemets, les femmes allaient finir par obtenir ce qu'elles voulaient, ce qui est un peu un paradoxe, de cette violence absolue va finalement déboucher sur le droit de vote des femmes en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, dans quelques autres pays d'Europe. Ouais. Évidemment, pas en France, pas en Suisse, pas au Vatican, enfin dans quelques pays qui vont résister pendant très longtemps et qui résistent encore comme le Vatican. Mais voilà, cette guerre, elle l'a vu très vite, que les femmes allaient en sortir vainqueurs, c'est pas le mot, mais en tout cas, elles auront le droit de vote à la fin.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en France, c'est aussi en 1945 qu'on obtient le droit de vote, donc c'est vrai que les guerres, les hommes ont résisté plus longtemps en France, mais...
Oui, Emmeline Pankhurst était vraiment un personnage visionnaire, très très déroutant aussi pour son époque. Enfin, vous l'avez dit, il y a beaucoup de militantes qui, sans doute à juste titre, hein, elles n'avaient pas tort, qui réprouvaient totalement l'usage de la violence ou le fait de s'en prendre à des vitrines, de briser des vitrines, etc. Et par rapport à la guerre aussi, elle a déconcerté quand même énormément, même au sein du WSPU qu'elle avait elle-même créé, elle a déconcerté quand elle a appelé finalement à soutenir cet effort de guerre. Mais bon, l'avenir lui a donné raison.
Alors on parle des femmes, il faut aussi parler des hommes, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup dans l'album, mais il y en a quand même un certain nombre, et ils sont très importants, parce que c'est eux qui résistent au fait de donner le droit de vote. Donc même s'il y en a certains qui sont évidemment d'accord, la majorité est contre. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ces hommes éminents sont contre le droit de vote des femmes ? Parce que ça nous paraît quand même assez exotique.
Eh bien, alors non seulement les hommes, mais même les femmes. Hein. À l'époque, on a regardé, en fait, il y avait des propagandes anti-suffragettes, et en fait, c'était tout à fait communément admis. Alors les arguments, c'était que par exemple, le mari votait et que elles allaient influencer leur mari, qu'ils allaient discuter à la maison. Donc bon, pourquoi elle voterait puisque de toute façon le mari vote. Enfin voilà, des tas de choses comme ça où en fait on voyait pas trop l'intérêt que les femmes votent. Et il y avait beaucoup aussi de caricatures des suffragettes à l'époque qu'on a insérées aussi dans la bande dessinée et qui les montraient comme des femmes, c'est ça, qui étaient un peu revêches parce qu'elles n'avaient pas trouvé de mari. Enfin voilà, c'est vrai qu'à l'époque c'était. Enfin maintenant ça nous paraît évident, mais à l'époque ça l'était pas du tout. Ouais.
Mais il y a quand même tout un jeu politique derrière où c'est vraiment ce qui a fini par énerver à ce point Emmeline Pankhurst et à la pousser à avoir des actions aussi spectaculaires. En fait, en privé, les hommes politiques, comme celui qui va devenir le Premier ministre, un certain Asquith, étaient tout à fait conscients et favorables au droit de vote des femmes. Il n'y avait aucun problème. Par contre, quand il s'agissait d'aller devant le Parlement pour le soutenir et que par le jeu d'alliances politiques internes, c'était un petit peu compliqué parce qu'il risquait de perdre sa majorité s'il froissait un certain type d'électeurs et tout. Là, il n'y avait plus personne en fait et finalement, mais c'est vraiment de la politique politicienne. Hein. Je pense que beaucoup étaient en leur fort intérieur convaincus que ça arrivera un jour, mais bon, en attendant, fallait gagner des élections, quoi. Et gagner les élections, ça passait par se mettre dans la poche des députés un petit peu ras du front, quoi.
Alors, il y a tout ça dans votre album, donc le contexte historique est très, très, très bien documenté, très bien raconté, mais c'est aussi une histoire géniale, parce qu'il y a l'histoire de toutes ces femmes, et surtout, il y a des rebondissements sans arrêt, il y a une course-poursuite Emmeline Pankhurst est poursuivie par la police, protégée par ses Amazones. Voilà, ça aussi, ça fait partie du charme de l'album, c'est que c'est pas seulement un constat ou un récit historique, il y a aussi de l'aventure, j'ai trouvé, dans cette histoire.
Oui, c'est gentil.
C'est gentil, puis c'est vrai que pour nous, c'est vraiment important. Nous, on vient, enfin, à la base, on aime des bandes dessinées vraiment de fiction. Et pour nous, c'est, la fiction, c'est vraiment important. De raconter une histoire, c'est vraiment important.
Oui, on a vraiment pris du plaisir à s'embarquer, en fait, avec nos personnages, à les suivre. Et c'est quand même des personnages hauts en couleur, donc il leur arrive des tas de péripéties. On a eu qu'à choisir, finalement, parmi tout ce qui leur arrivait d'incroyable.
Oui, ça sent, vous les aimez beaucoup, bon, c'est difficile de ne pas les aimer, et ça sent que vous avez pris du plaisir à les bousculer un peu et à les faire jouer dans Londres, comme ça, à la course-poursuite avec la police. Il y a un homme aussi qui est vraiment très, très attachant, c'est le mari de Edith. Lui, est-ce que c'est un vrai personnage? Est-ce que vous avez trouvé des documents sur lui? Parce qu'il est plus effacé que sa femme, mais en même temps, il est drôle. Il se laisse un peu embarquer comme ça, à droite et à gauche, toujours en suivant sa femme. C'est un piètre cuisinier. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, si vous savez des choses sur lui?
Je me suis inspiré de toi pour la cuisine. Heureusement, je ne sais pas très bien cuisiner. Et oui, c'est un personnage attachant. Alors, on n'a pas trouvé, évidemment, autant de documents que pour Edith. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Moi, ce que je trouve intéressant finalement chez ce garçon, c'est que il comprend quand même pas vraiment ce qui se passe pendant une bonne partie de l'album, et il a un petit peu peur pour son épouse. Il essaye plutôt de la protéger, et voilà, en fait, il y a une prise de conscience chez lui qui se fait vraiment petit à petit, et ça aussi, je me reconnais du coup un peu en lui. Et voilà, ça c'est un parcours qui m'intéressait chez ce personnage.
Je voulais aussi vous parler des couleurs, parce que le travail de la coloriste est très, très important. On passe de choses très documentaires, très précises, à des pages où il y a des aplats, des fonds de couleurs. Là aussi, comment vous avez travaillé avec elle pour à chaque fois avoir cette justesse dans les ambiances?
Ouais, et ben en fait, c'est notre première bande dessinée en couleur et on est impressionné par son travail. En fait, dès le début, on est parti ensemble sur une idée, c'était de pas avoir des couleurs trop sépia, trop historique, trop vieillotte, et de donner vraiment un côté très moderne. Parce que pour nous, le propos, ça a beau se passer il y a 100 ans, le propos reste tout à fait d'actualité. Et on est parti là-dessus, et ensuite, tout ce qu'elle faisait était bien, quoi. Vraiment, donc il n'y a pas eu beaucoup de travail, à part ce travail au départ.
Oui, c'est très impressionnant. Je dois dire que ça fait vraiment partie des charmes de cet album. Ouais. Ben, on s'est presque tout dit, mais pas tout à fait, parce qu'il faut maintenant lire l'album. C'est ça le plus important. Ça a été un plaisir de vous écouter. Je rappelle le titre de l'album, c'est Jujitsu Suffragette, les Amazones de Londres. C'est publié par les éditions Delcourt. Ça fait 150 pages et c'est au prix de 21 €, ce qui est carrément donné. Voilà, on trouve ça chez tous les meilleurs libraires de France et de Navarre. Clément et Lisa, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi.
Merci à vous,
on était ravis. Merci.
Et je vous dis à bientôt.
Oui, à tout bientôt.
À bientôt, merci.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.